1947, pénurie et guerre froide. Dans un contexte de pénurie, les cartes de rationnement sont toujours en vigueur et d'inflation, les difficultés apparaissent sans tarder. Elles prennent la forme de grèves de plus en plus étendues dont la CGT prend la tête. Ramadier exclut alors les ministres communistes de son gouvernement le 2 mai 1947. Ils espèrent revenir au pouvoir, mais la guerre froide commence, face à face belliqueux entre les États-Unis et l'URSS, avec création de part et d'autre d'un arsenal nucléaire, la France se rangera le 4 avril 1949 du côté des États-Unis en adhérant à l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. En octobre 1947, les produits alimentaires ayant augmenté de presque 50% et les salaires de 10% à peine, une grève générale dans la métallurgie et dans les mines est déclenchée. Ramadier et son gouvernement démissionnent. Robert Schuman, MRP, entre en lice le 19 novembre 1947. Il se montre ferme face à la grève.
La naissance de FO et de la FEN. Les grèves d'octobre 1947 se transforment en insurrection. Les manifestants interrompent leur trafic ferroviaire, obstruant les voies, de sorte que la capitale n'est plus ravitaillée. Près de 80 000 réservistes sont alors rappelés. La police réprime le mouvement et la CGT demande la reprise du travail le 9 décembre 1947. Se séparant de la CGT, les syndicats de force ouvrière, FO, et la Fédération de l'éducation nationale, la FEN, vont voir le jour.
Le SMIG voté par la troisième force. À partir d'octobre 1947, une troisième force politique naît de l'opposition au Parti communiste et au parti fondé par De Gaulle, le RPF. Cette troisième force, composée de socialistes et de MRP, refuse la politique extérieure de l'Union soviétique et préfère se rapprocher des États-Unis. Elle permet d'enrayer l'inflation galopante et de voter le 11 février 1950 un salaire minimal qui va longtemps porter le nom de SMIG. Salaire minimum interprofessionnel garanti. L'homme fort de cette époque est le président du Conseil, Henri Queuille, qui parvient à piloter la troisième force en écartant à la fois les réticences des gaullistes et celles des communistes.
L'État-providence. L'après-guerre permet l'application rapide du programme du Conseil national de la résistance, en réalisant le programme des nationalisations. Renault, les quatre plus grandes banques privées, l'électricité et le gaz, les transports aériens, les houillères. L'État, imprégné des idées socialistes et communistes, devient le cœur d'une économie d'inspiration dirigiste. Le volet social comprend l'extension à tous les salariés de la sécurité sociale. Elle est financée par des cotisations patronales et salariales et gérée par des représentants des salariés. Elle prend en charge non seulement la maladie, mais aussi la vieillesse et l'invalidité. L'État prend aussi en charge l'indemnisation du chômage. Peu à peu, au fil des responsabilités financières et humaines qu'il accumule auprès des Français, il devient cet État sur lequel tout le monde compte désormais. L'État-providence.